Radio Kapi.
Oh, Kapi.
D'abord les titres de ce journal. Le chef de l'État Félix Tshisekedi arrive dans quelques heures à Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental. Les autorités provinciales déjà mobilisées attendent de l'arrivée du président de la République la relance des activités minières afin de booster le développement de cette province. Esther Ndalafina, notre correspondante à Mbujimayi, nous fait le point dans quelques instants. Suspension du trafic depuis 3 semaines sur les tronçons Bunia-Katoto-Largou. Nos sources indiquent que c'est suite aux différentes attaques de la milice Codeco qui entravent la libre circulation des usagers de cet axe qui permet de ravitailler en produits de première nécessité plusieurs localités dans le territoire de Djougou à Nitouri. Plus de détails dans ce journal. L'invité de ce midi est Pépin Kavota, président de la coordination urbaine de la société civile de Beni. Il revient sur les conditions de vie précaires que traversent les détenus de la prison urbaine Kangwaï de Beni après leur visite dans cette maison carcérale ce mercredi à l'occasion de la fête de nativité. Bonjour à toutes et à tous. Quelques heures seulement nous séparent de l'arrivée à Mbujimayi au Kasaï oriental du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout est fin prêt pour son accueil. Les autorités provinciales, c'est-à-dire le président de l'Assemblée provinciale et les gouverneurs de la province, attendent de la visite du président de la République le développement de la province du Kasaï oriental à travers la relance de la MIBA, la réhabilitation des routes de dessertes agricoles. Des explications avec Esther Ndalafina.
La nouvelle équipe dirigeante de la province du Kasaï oriental, nous citons le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur de province, vont pour la première fois accueillir les chefs de l'État pour sa deuxième mandature. Willy Mouya, président de l'Assemblée provinciale, attend de cette visite plusieurs choses, dont la création des entreprises minières.
La province du Kasaï oriental regorge beaucoup de ressources naturelles. Ce que nous demanderons aux chefs aujourd'hui est qu'en dehors de la MIBA, qui est en train d'être relancée, la SACIM, nous voudrions aussi qu'il y ait 2 ou 3 entreprises de cette ampleur-là. Et surtout que les chefs pensent à nous sur l'agriculture, que l'agriculture soit priorité des priorités. Ça sera vraiment un bon départ pour la province du Kasaï oriental.
Jean-Paul Mbwebwe Kapo, gouverneur de province, veut palper du doigt le développement de son entité.
Le peuple attend de lui la relance de la MIBA. Et parmi les problèmes épineux que nous avons, les routes de dessertes agricoles, l'énergie électrique, ce sont là les priorités que nous avons pour le moment.
Signalons que le chef de l'État va s'adresser à la population de Mbujimayi sur la place Bonzola dans la commune de la Kanchi. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
Entre-temps, le chef de l'État a visité hier mercredi la route Kananga-Kalambambouji jusqu'au lieu où l'entreprise Sinohydro construit la base vie au Kasaï central. Cet endroit est le cadre où les Chinois vont habiter et stocker leur matériel pour ces travaux. François Kadima a également été sur place.
Après avoir annoncé lors de son meeting à Kananga qu'il ne finira pas son deuxième mandat sans donner au centre kassaïen la route Kananga-Kalambambouji, Félix Tshisekedi a voulu s'imprégner des travaux qui s'effectuent sur cette voie d'intérêt économique pour la région. Canton de la descente du président de la République, cet habitant du coin demande juste une seule chose, qu'en 2025, cette route soit asphaltée, c'est cela notre souhait. Le 12 juin de l'année en cours à l'Assemblée nationale, les députés nationaux élus du Kasaï central avaient plaidé pour la reprise de travaux sur Kananga-Kalambambouji. Élu dans le territoire de Kazumba, le député national Meshack Mandefou salue les passages du chef de l'État qui permettra de booster les travaux sur cette route. Il s'engage à faire les suivis pour que ces travaux finissent réellement comme le souhaite le chef de l'État.
Même si le président parlait aujourd'hui, le reste, nous devons rester vigilants. J'ai visité la base vie, j'ai visité là où on est tenté d'installer un cancer.
Déjà, le ministre de JTPR, Alexis Guissaro, a expliqué que l'année prochaine, cette voie, qui sera d'abord faite en terre battue, sera ouverte pour les usagers. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
L'Assemblée provinciale de Kinshasa a jugé ce mardi recevable les projets des 10 budgétaires exercice 2025 du gouvernement Bumba. Cet organe délibérant a levé cette option lors de sa plénière consacrée à la présentation de cette loi des finances de la ville-province de Kinshasa. Plus de détails avec Jordan Blaise Shindani Kambala.
Ce projet d'édite budgétaire présenté par le gouverneur Daniel Bumba est chiffré à plus de 3 000 milliards de francs congolais, plus d'un milliard de dollars américains contre plus de 2 000 milliards de francs congolais, soit plus de 783 millions de dollars américains pour l'année 2024. Ce projet de loi des finances connaît ainsi une augmentation de l'ordre de plus d'un milliard de francs congolais, équivalent à plus de 368 millions de dollars américains. Un seul député s'est abstenu lors du vote de ce projet du budget sur les 48 députés que compte l'Assemblée provinciale de Kinshasa. À en croire le premier citoyen de la ville, la répartition des crédits dans le cadre du présent projet d'édite budgétaire repose sur les principaux axes de gouvernance, socle du programme d'action du gouvernement provincial dénommé Kinshasa et Zobonga. Déclaré recevable par l'Assemblée plénière, le projet d'édite budgétaire du gouvernement provincial pour l'exercice 2025 a été remis à la commission ECOFIN pour une analyse très approfondie qui doit prendre 2 jours, soit ce jeudi.
À l'occasion de fêtes de Noël, le sénateur Salomon Idi Kalonda s'exprime. En ce jour très spécial de la nativité, je songe à tous ceux qui sont privés de liberté en raison de leurs opinions politiques, à l'instar de Mike Mukebai, Seth Kikuni et tant d'autres. C'est en ces termes que le sénateur Salomon Idi Kalonda de l'opposition, lui-même ancien détenu, a formulé son message de vœux à l'occasion de la Noël. Il l'a dit dans une déclaration publiée mardi 25 décembre sur son compte. C'est un papier d'Alain Irung rendu par Blaise Ndongala Mayanda.
Le sénateur Salomon Idi Kalonda exprime sa compassion envers les prisonniers politiques et d'opinion avant de déclarer, je cite, « Pour avoir été à leur place l'année dernière, je sais la peine qu'eux-mêmes et leur famille endurent. Toute ma compassion puisse-t-il recouvrer très vite la liberté ?» Fin de citation. Il affirme également avoir une pensée particulière pour leurs camarades d'Ensemble pour la République, Jean-Claude Ndala Mousselois, arrêté depuis le 21 décembre courant à Lubumbashi, à l'issue de la célébration du 5e anniversaire de leur parti politique. Salomon Idi Kalonda demande également sa libération sans condition avant de conclure, je cite, « Militer au sein de l'opposition ne devrait pas être un crime en RDC. La liberté de réunion, d'opinion et d'expression y sont consacrées pour tous. » Respectons-les. Fin de citation.
En Ituri, le trafic est suspendu depuis 3 semaines sur les tronçons Bunia-Katoto-Largou qui permet de ravitailler en produits de première nécessité plusieurs localités dans le territoire de Djougou. Cela suite aux différentes attaques de la milice Codeco qui empêche la libre circulation des personnes et de leurs biens. Conséquence, des milliers d'habitants n'ont pas accès aux champs et les marchandises sont rares sur les marchés. La société civile locale demande au gouvernement de traquer ces hommes armés dont ces entités où les habitants se disent asphyxiés. Isaac Remoyope.
Des cas de meurtre, d'enlèvement de certains habitants et des pillages de leurs biens attribués aux miliciens de la Codeco sont récurrents depuis le début de ce mois de décembre dans les territoires des Djougou. Selon la société civile locale, ces hommes armés occupent plusieurs localités, notamment dans les groupements Ladejo, Gobi et Pimbo, ce qui a réduit sensiblement la circulation de la population pour accéder aux champs et exercer les petits commerces, déclare son président. Il ajoute que le trafic est suspendu sur les tronçons Bunia, Katoto, Paranganza, Tse, Masumbu, Kalargu et Drodro. Plusieurs marché communautaire pour la vente des denrées alimentaires et l'approvisionnement en produits de première nécessité ne sont pas opérationnels. Les prix des marchandises dont le sel, le sucre, l'huile végétale et les carburants ont presque doublé sur les marchés. La population qui s'est dit enclavée lance un appel au gouvernement de renforcer l'effectif des FARDC en vue de contenir les menaces des groupes armés. De leur côté, les casques bleus de la MONUSCO ont intensifié les patrouilles pour garantir la protection des civils. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, 8 otages des EDF, tous cultivateurs de la localité de Bakila Tenambo à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, ont réussi à s'échapper des mains de leurs ravisseurs hier mercredi dans les après-midi. C'est le résultat de la pression des opérations militaires des forces conjointes FRDC-UPDF dans cette région. Les sources militaires indiquent que ces derniers ont été amenés dans la forêt d'Endimo dans la chefferie de Walese et Vonkutu en territoire d'Irumu voisins par ces rebelles il y a quelques semaines. Tous ont regagné leurs familles respectives ces mêmes dimanches. Signalons que c'est un total de 27 otages libérés en moins de 2 semaines à la suite de la pression militaire dans cette région. En province du Tanganyika, les déplacés victimes de l'incendie de leur village par des miliciens Bakata Katanga nécessitent de l'aide humanitaire. Ils se sont réfugiés dans les groupements Kamena, territoire de Moba. Certains vivent dans des familles d'accueil. L'administrateur du territoire qui livre l'information ce jeudi annonce que le calme règne dans la zone et 2 présumés miliciens sont aux arrêts. Victor Kanfoy souligne que ces miliciens font des incursions chaque fois à l'approche des festivités de fin d'année. Ils proviennent souvent des Manono en passant par Moba. Parfois, ils vont à Mitwaba et se dirigent vers Pweto, indique l'administrateur du territoire de Moba. L'expulsion brusque d'un groupe de Chinois accusés d'exploitation illégale des minerais du sous-sol de la province du Sud-Kivu suscite des remous au sein de la communauté et de la classe dirigeante. Les gouverneurs des provinces menacent de traduire en justice toute personne physique ou morale qui se serait donné la permission de court-circuiter la volonté du chef de l'État qui soutient l'autorité provinciale à combattre la fraude minière qui plonge le Sud-Kivu et la RDC dans la pauvreté. Néné Bintou, présidente du bureau de coordination de la société civile, promet le soutien de toutes les forces vives de la province derrière toute lutte contre les crimes économiques orchestrés par les ennemis de la relance du développement du Sud Kivu. On l'écoute au micro de Jean Kassami.
Il semble qu'il y a eu des coups de fil au niveau de la DGM, au niveau de la PNC, parce que le général de la police était aussi au courant. C'est lui qui a déployé les éléments qui les gardaient. Et d'un coup, des gens sans papier, qui exploitaient même sans permis d'exploitation, ni sans permis de recherche, ils sont partis en passant par le Rwanda. Donc c'est une situation inacceptable pour le Sud Kivu. Et nous pensons que l'assainissement du secteur minier doit être une priorité du gouvernement provincial, mais aussi avec l'appui du gouvernement national. Le gouverneur aussi nous a appelé dans un point de presse le mardi soir où il nous montrait aussi sa déception par rapport à cette question. Il nous a montré les correspondances qu'il avait adressées à la DGM pour ne pas occasionner que ces gens puissent être libérés et que le chef de l'État aussi aurait appelé pour lui demander de tout faire pour que ces gens ne quittent pas le pays. Maintenant, on se demande qui est la personne qui est au-dessus du chef de l'État, qui a donné des ordres contraires. En tout cas, pour nous, la société civile, nous voulons que les choses soient clarifiées.
Néné Bintou s'est exprimé au sortir d'une réunion d'information convoquée par le gouverneur des provinces, Jean-Jacques Pourroussi, les jours même de l'expulsion unilatérale de ces groupes de Chinois qui venaient d'être arrêtés la veille dans les sites de Karembo, en groupement de Rubimbi, dans le territoire de Walungu, par une délégation conduite par le ministre provincial de Finances. Autre nouvelle, la campagne agricole 2024-2025 est bien partie dans la province de la Tchopo. Plusieurs centaines de tonnes de semences et d'outils aratoires ont été remis mardi aux inspecteurs territoriaux de l'agriculture par les gouverneurs des provinces. Ces semences sont constituées des riz, maïs et arachides. On retrouve également des niébés et des sojas ainsi que 942 000 mètres linéaires de boutures saines de manioc. Cette dotation du gouvernement central par les billets du ministère de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire est destiné aux associations et coopératives agricoles. Plus de précisions avec Jacques Moukonkolé.
L'inspecteur provincial de l'agriculture révèle que par cette dotation, les autorités nationales tiennent à diversifier l'économie du pays. Pour Augustin Milambo, ces cultures vont avoir un impact certain sur l'économie nationale.
Les chefs de l'État veulent quand même diversifier l'économie. Sa vision, c'est celle de la revanche du sol sur les sous-sols. L'agriculture peut vraiment booster l'économie de notre pays. Donc, c'est pour donner quand même un grand revenu et aussi assurer la sécurité alimentaire des populations.
Les inspecteurs de cette territoire nord de la province de la Tchopo ainsi que ceux de la ville de Kisangani ont réceptionné symboliquement ces semences des mains de l'autorité provinciale. Ils en sont satisfaits, comme en témoignent quelques-uns.
Là, au Pala, j'ai 1875 hectares. Avec ça, qui va faire un impact auprès de tout non-ménage agricole. On va se sentir à tous les niveaux.
Par rapport aux résultats, nous nous attendons à un bon résultat. Là.
D'autres trouvent que l'acheminement de ces semences dans leur milieu est une difficulté majeure pour eux, comme l'explique celui de Yaouma.
Le déploiement des matériels, ça va poser un problème. S'il y a les moyens de déploiement, l'argent, on va amener chez moi à peu près une affaire de 300-310 km à Yaouma. Comment je dois amener la quantité?
Signalons que les bénéficiaires, à savoir les associations et coopératives agricoles, sont déjà identifiés, précise le chef de division provinciale de l'agriculture, Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale. À Mayotte, plus de 10 jours après les passages du cyclone Chido, les premiers départs volontaires vers l'île d'Anjouan ont débuté ce mercredi 25 décembre. Près de 450 personnes ont quitté Mayotte vers Anjouan à bord de 2 bateaux, une opération humanitaire d'envergure qui concerne aussi bien des Comoriens que des ressortissants d'autres nationalités. Une initiative mise en œuvre par la préfecture de Mayotte.
L'invité.
Les conditions de vie difficiles des populations carcérales, les nombres insuffisants des magistrats face au nombre élevé des détenus ainsi que les restrictions des visites aux détenus sont là quelques soucis qui ont été soulevés. C'est mercredi par le responsable de la maison carcérale urbaine Kangwaï de Beni devant une vingtaine d'acteurs de la société civile qui ont rendu visite à ces détenus à l'occasion de la fête de la nativité. Comment expliquer cette situation et que préconise la société civile pour y faire face? Nous en parlons avec Pépin Kavota, président de la coordination urbaine de la société civile en ville de Beni, dans cet entretien avec Marc Marofimbo.
Maître Pépin Kavota, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes le coordonnateur de la société civile dans la ville de Beni et vous étiez à la tête d'une grande délégation des acteurs de la société civile, c'est de l'association culturelle Kiandaïra, des mouvements citoyens, des groupes de pression ainsi que de la jeunesse pour rendre visite dans les maisons carcérales de la ville de Beni. Je parle de la prison centrale de Kangwaï, l'établissement des gardes pour enfants ainsi que la maison carcérale de femmes. Comprenons quelle a été votre motivation à ce jour spécial des fêtes de nativité.
En fait, vous savez, aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre 2024. C'est une journée de nativité de Jésus-Christ. On se souvient effectivement de ça. C'est autant que nous avons décidé d'aller vers les patriotes qui sont à détention. Nous avons commencé par la prison de femmes. Nous sommes allés à l'EGE et maintenant nous sommes au niveau de la prison de Beni Kangwaï. Nous avons amené une petite chose pour festoyer avec nos compatriotes, nos collègues, nos amis qui sont en détention parce qu'ils sont dans une exception, parce que la liberté est à la règle, mais la détention, l'exception. C'est au temps que nous sommes là. Nous les avons souhaité joyeux Noël. Nous avons souhaité aussi une bonne année, une nouvelle année 2025 de liberté dans leurs familles respectives.
Qu'est-ce que cette visite peut représenter pour vous, à part les souhaits?
Au fait, d'abord, c'est notre cheval de bataille pour que ceux-là qui sont en détention constatent effectivement que ceux-là qui sont à l'extérieur sont en train de se souvenir d'eux. C'est ce qui a poussé à ce que les mamans, les jeunes, la société civile tout entière soit en prison de Beni Kangwaï et chez les mamans et chez les enfants. Donc, c'est une grande journée pour les chrétiens. C'est autant qu'on a choisi cette journée pour venir ici.
Maître, lors de vos échanges avec les responsables de la prison, on a senti un chiffre élevé de détenus avec beaucoup de besoins connexes et il a même fini par dire que la société civile devait aussi les appuyer aux côtés du gouvernement. Vous, votre réaction par rapport à ça?
D'abord, il faut dire qu'on est en train d'y travailler. Le plaidoyer continue. D'abord, par rapport à l'insuffisance des magistrats au niveau de tribunal militaire de garnison, de Beni, et même des magistrats à l'auditorat. Voyez-vous, la prison de Beni Kangwaï, non seulement son ressort est étendu sur le territoire de Beni et sur la ville de Beni, et que donc ces nombres, comme nous sommes sous état de siège, poussent à ce qu'il y ait un grand nombre de prisonniers à détention à Beni Kangwaï. Un nombre élevé de 1500, c'est pas 14, c'est beaucoup. Et que donc, nous pensons que tous ceux-là qui vont nous écouter, que ce soit députés, que ce soit ministres, ils doivent réfléchir sur l'augmentation des magistrats assis et debout en ville de Beni. Et même la création d'autres juridictions dans les territoires de Beni. Parce que nous avons vu que tout le territoire n'a pas un tribunal pour que ils jugent ceux-là qui seront en train de commettre des infractions de la compétence de leur ressort. Voilà, c'est autant qu'on est là pour que l'on essaie de voir comment faire des plaidoyers. Mais aussi, en dehors de ça, avec l'appui du CICR, mais aussi la restauration du gouvernement central, avec la démographie pénitentiaire, c'est beaucoup. Et que donc, toute la population de la ville de Béni, toute la population du territoire de Béni, nous devons nous tous nous souder le cou pour venir en aide à cette population. Mais aussi, il s'avère que parmi ceux-là qui gardent ici, il y a ceux-là qui tracassent la population, qui viennent visiter les détenus. Là aussi, il n'y a aucune loi qui, n'est-ce pas, dit que lorsqu'il y a une visite, il faut payer. Donc là, nous tenons tous les policiers à l'œil. Si nous avons une alerte à rapport avec le paiement d'une petite somme, eh bien, nous allons en informer les autorités hiérarchiques pour que ces gardes soient punis selon la loi.
En vous écoutant parler de cette tracasserie, on peut directement conclure, soit dire que c'était le problème de l'ignorance de la part de la population et comment elle va s'en prendre.
Effectivement, ils doivent se dire que si vous venez visiter votre familier, vous ne devez pas payer même un petit rond. Même si vous voulez donner au gardien, ok, vous donnez, mais ce n'est pas obligatoire. Okay, donc, s'il y a une personne qui serait, n'est-ce pas, tracassée par ces paiements-là, je lui demande de venir au niveau de la société civile, au niveau du bureau de la jeunesse, du Kiandaïra, pour dénoncer, afin que nous puissions, n'est-ce pas, remonter cette information à qui des droits.
Maître Pepe Kavota, merci.
C'est à nous de vous remercier, messieurs les journalistes.
Et c'est la fin de cette édition d'information de la mi-journée sur Radio Okapi, journal supervisé, coordonné par Martin Seboudjangwe et Élisée Tchikota Tchivueta. Mise en onde par Alain Goy et Patience Ngalou Lambombo était à la présentation. Merci de nous avoir écoutés.